Alors, avant de commencer cette réponse rapide, et encore réponse, on va peut-être nuancer la question, je voudrais vraiment remercier Julie Hélard et les membres organisateurs de Séminaire de m'avoir invité à participer à ce débat aujourd'hui, ce qui me permet de rencontrer Céline Spector, dont je connaissais les textes. Donc, voilà, ça nous permet de nous croiser en direct. Vous aurez remarqué, évidemment, c'est sa remarquable aptitude pédagogique à lui faire pénétrer dans un texte aussi compliqué, complexe, on l'a vu, que l'Esprit des lois, qui, comme beaucoup de ces textes canoniques, Julie le rappelait, sont évoqués sans cesse, le plus souvent sans avoir jamais été lus, et donc subissant des déformations parfois un petit peu dangereuses. Et bon, je crois que votre exposé le prouve, hein, même si le texte n'est pas évident à lire, on voit qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à un même texte. Alors, cette session-ci en particulier, je pense, prouve, s'il en est encore besoin, mais je sais que je prêche des convaincus ici, que la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité est vraiment fondamentale pour les sciences humaines, je pense même au-delà des sciences humaines. On peut difficilement cloisonner les savoirs comme ça, et heureusement je pense qu'on est dans une ouverture qui est en train de se manifester de plus en plus. En tout cas ici c'est très clair, hein, on est dans un séminaire organisé par la faculté de droit. Madame Spector est philosophe de formation, pour ma part, tu l'as rappelé, je suis historienne de la littérature et des idées. Mais peut-être dans ce cadre aussi, parce que j'ai en effet réécouté les autres interventions, et notamment celle qui a mis en présence François Host et Paul Aron, on se rend bien compte que le dialogue est parfois, enfin toujours constructif en tout cas, mais pas toujours aussi clair qu'on pourrait l'imaginer au départ. Ça sera sans doute moins le cas ici, puisque lorsqu'on travaille en littérature du XVIIIe ou en philosophie du XVIIIe siècle, on se rend compte qu'on est amené de facto à avoir un discours conjoint. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous citer dans votre ouvrage justement sur liberté, droit et histoire, où vous disiez fort justement: Montesquieu, pas plus que ses contemporains, ne souhaitait séparer une science pure et dure des belles lettres. À ses yeux, tout se tient, science et art et lettres sont étroitement liés. C'est vrai de Montesquieu, vous le dites, c'est vrai de ses contemporains. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater que tous les auteurs qu'on a cités aujourd'hui, on pourrait en citer d'autres, sont rarement munis d'une seule casquette, hein, que ce soit Montesquieu, philosophe et magistrat. Que ce soit Diderot, que j'évoquerai dans quelques instants, qui peut aussi être mathématicien, romancier, philosophe. C'est une évidence pour ces hommes des Lumières, c'est peut-être aussi parce que les savoirs sont quand même plus accessibles. Aujourd'hui, il y a une telle diversité des savoirs, augmentation du savoir aussi, qu'on peut peut-être moins polyvalent qu'on l'était au XVIIIe siècle, mais je pense que ça correspond quand même à un état d'esprit particulier qu'on a perdu trop longtemps et que, j'espère, on va continuer à développer. Alors, la question qui est abordée aujourd'hui sur la figure du juge, les figures du juge, et le rôle du juge dans la société d'Ancien Régime, a préoccupé énormément d'intellectuels du XVIIIe siècle. Alors, sont nombreux ceux qui ont répondu à Montesquieu, hein, vous l'avez rappelé, c'est un best-seller, c'est une référence déjà à l'époque, et ça c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Les étudiants aujourd'hui ont quand même rarement le sentiment de la difficulté de la transmission du savoir. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, d'ouvrir la télévision, on a toute une série d'outils. La circulation de l'imprimé, du livre, dans la France d'Ancien Régime, c'est pas la même chose. C'est soumis à toute une série de vecteurs que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Vous avez parlé de la censure particulièrement présente. Et puis, bon, aussi le degré d'analphabétisation qui fait que les textes ne sont pas souvent lus de première main. Ils sont souvent déformés. Et donc, on est là face à un phénomène étonnant. Montesquieu, en tout cas dans la sphère intellectuelle, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a compris, ou du moins croit l'avoir compris, et fait appel à lui. Donc il va y avoir des réponses, souvent pour chanter sa louange, parfois pour le critiquer, mais à côté de cela, il n'est pas le seul évidemment à s'être intéressé à ces questions de la justice, du rapport à la justice dans la France des Lumières. Et je voudrais juste prendre un petit exemple littéraire, et puis je reviendrai dans le terrain quand même de la philosophie du droit, qui est donc l'exemple de Diderot, avec je ne rentrerai pas dans le débat sur l'hydro, même si c'est l'année d'hydro, sinon on va passer la nuit ici. Je voudrais simplement évoquer un texte qui s'appelle « Les entretiens d'un père avec ses enfants », dans lequel Diderot cède un petit peu à une de ses marottes, c'est-à-dire de poser des cas de conscience à ses lecteurs et aux personnages qu'il met en scène. Alors il va venir avec les cas les plus improbables et demander finalement aux différents personnages de réagir. Qu'est-ce que vous feriez si ? Et en l'occurrence, dans les entretiens d'un père avec ses enfants, on a, je pense, un cas qui ne sera pas inintéressant pour notre discussion. Il imagine son père, le père Diderot, qui a réuni autour de lui ses enfants, et qui leur raconte une anecdote qui lui est arrivée récemment. Le curé de Pivet, petit village voisin de Langres, est décédé. Il a une famille assez nombreuse qui vit dans le besoin et le dénuement le plus total, le brave curé ayant amassé quand même une solide fortune. Mais comment se la répartir ? Alors on fait appel au sage, le père Diderot, pour savoir comment on va répartir les biens. Mais voilà qu'en fouillant dans les affaires du curé pour mettre ses affaires en ordre, il tombe sur un testament. Un testament vieux de 50 ans, dans lequel le curé lègue toute sa fortune à un parent éloigné, qui est une crapule finie, qui habite Paris, qui ne s'est jamais soucié de lui, qui ne sait sans doute même pas qu'il existe, et qui vit dans l'opulence totale. Alors la question que le père Diderot se pose, et qu'il pose à ses enfants, c'est: qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois finalement respecter la volonté du curé, qui a sans doute oublié ce testament depuis 50 ans, et rendre à César ce qui lui appartient par testament, ou bien au contraire faire comme si j'avais rien trouvé et finalement donner la fortune à ceux qui restent. En d'autres termes, ce que nous demande ici Diderot, c'est d'entamer un débat sur la nature du droit objectif et du droit naturel. Et ici, je ne rentrerai pas non plus dans ces théories-là qui nous amèneraient trop loin, mais pour Diderot, au fond, l'homme est antérieur à la loi qui dit que le testament prime sur la légalité, et il faut ici, nous dit-il, choisir entre légalité et justice. Diderot va développer tout cela en nous disant qu'au fond, il n'y a pas besoin de loi pour le sage, qui parvient en effet à non pas respecter la loi à la lettre, mais l'esprit de la loi. Mais néanmoins, la loi est nécessaire pour une vie en société, pour maintenir le bon fonctionnement de la société. Et Diderot débouche bien évidemment sur des réflexions éthiques, sur la question de la morale, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, rompant avec l'idée d'un bien définitif ou d'un mal définitif. Alors vous allez me dire, ça m'éloigne de Montesquieu. Oui, bien entendu, j'y reviens tout de suite. C'était simplement pour montrer que dans des textes qui sont des textes littéraires, qui ne sont pas à proprement parler des textes philosophiques ou des textes juridiques, des questions de fond sur ce qui est légal, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, vont trouver leur place également. Mais c'est à une autre figure emblématique des Lumières que je voudrais m'arrêter dans cet embryon de réponse, et vous m'avez finalement permis d'embrayer très clairement là-dessus en faisant l'économie du dernier élément, donc c'est très bien, peut-être on pourra aussi en nourrir la discussion. Je voudrais évoquer ici rapidement donc la figure de Malesherbes, Chrétien Lamoignon. C'est un Guillaume de Lamoignon de Malesherbes qui est une figure qui m'occupe depuis de nombreuses années et qui incarne vraiment cette interdisciplinarité dont je parlais en commençant. Puisqu'en effet, Malesherbes, qui est un contemporain de Montesquieu mais qui est quand même deux générations plus jeune que lui, multiplie les casquettes. C'est un homme qui vient de la noblesse comme Montesquieu, qui est de haute noblesse, qui est d'une famille de magistrats. Vous avez cité Lamoignon tout à l'heure, donc c'est cette même famille. Il a un père chancelier de France. Lui-même occupe une charge de magistrat. Il sera tour à tour directeur de la librairie, et c'est comme ça que je l'ai entre guillemets rencontré, puisqu'il est en charge de la police du livre, de la censure. C'est lui qui va d'ailleurs sauver l'entreprise de l'encyclopédie, qu'il a été amené à être par deux fois ministre de Louis XVI, ce qui l'a amené à avoir un lien particulier avec le pouvoir, et puis toute sa vie il sera fasciné par la littérature, par les arts, dont il essaiera d'être le protecteur. Alors, on est ici face à quelqu'un qui n'est pas un auteur à proprement parler, mais qui s'inscrit, si vous voulez, dans la mouvance de ces trois grandes orientations intellectuelles. Alors, il a publié des ouvrages de son vivant, qui, comme Montesquieu, ne sont pas non plus des ouvrages facile à lire, mais il a laissé surtout un nombre impressionnant de textes sous forme de manuscrits, et donc je suis en train de travailler pour le moment au dépouillement général de ces textes. Et une grande partie de ces textes touche à la question de la justice et de la réforme de la justice sous l'Ancien Régime. Alors, bien entendu, j'ai envie de dire, la fonction crée l'organe. Et puis, comme beaucoup de ses contemporains, et surtout contemporains magistrats qui sont amenés à exercer le pouvoir, Malesherbes est un connaisseur incroyable de Montesquieu. Il le lit, il le commente. Et il fait partie de ceux qui ne sont peut-être pas des hagiographes définitifs. C'est-à-dire qu'il a une admiration sans borne pour Montesquieu, ça ne l'empêche pas d'avoir certains points de vue critiques par rapport à lui. Vous avez parlé tout à l'heure du maintien, de la réputation conservatiste de Montesquieu. Je pense en effet qu'il faut prendre ça avec des guillemets et remettre tout ça dans son contexte. Il est vrai que pour Malesherbes, qui est, je vous l'ai dit, plus jeune que Montesquieu, l'esprit des lois et les autres grands textes de Montesquieu sont guidés, entre autres, peut-être par un esprit de corps qui va aussi orienter sa pensée, appartenance à la noblesse, appartenance à la magistrature, tout comme lui d'ailleurs, mais qui va essayer pour le coup de prendre un peu de hauteur par rapport à ça, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans mon exposé. Si j'insiste sur la différence de génération entre ces deux hommes, c'est que Malesherbes a eu, je ne vais pas dire la chance, puisqu'il a terminé quand même avec quelques centimètres de moins, comme beaucoup de ses contemporains, sous la Terreur. Oui, j'ai oublié que parmi, évidemment, ses nombreuses casquettes, il a été l'avocat de Louis XVI, qu'il a défendu. Et bon, ça n'a pas permis au roi de conserver sa couronne ni sa tête. Lui-même a été guillotiné avec l'ensemble de sa famille quelques années plus tard. Néanmoins, Malesherbes va connaître, si vous voulez, le régime de Louis XV et va devenir lui-même le ministre de Louis XVI. Donc il y a là déjà quand même, sur le plan de l'historicité, une évolution dans la vision qu'on peut avoir du pouvoir, de son exercice et de la justice. Puis évidemment, il va connaître la Révolution et ses détournements dans la Terreur. Et là aussi, on retombe sur la question du despotisme et du terrorisme que vous avez évoqué dans votre exposé. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que finalement, la pensée de Malesherbes a eu le temps de s'affiner, ou en tout cas d'évoluer en fonction des circonstances, et que s'il restera jusqu'à la fin de sa vie un monarchiste convaincu, c'est davantage la monarchie constitutionnelle qui est son idéal. Il va d'ailleurs plaider pour ça dans toute une série de textes. Et s'il se montre sans doute un adversaire de la révolution en tant que telle, je ne parle pas de celle de 89, c'est avant toute chose un réformateur. Et par rapport à la question de la justice, du droit, de la figure du juge et de son rôle, si vous voulez, on va voir pour lui la nécessité de réformer en profondeur une société qui est en train de changer et qui doit fonctionner avec d'autres modes de fonctionnement. Alors, Malesherbes va s'attaquer à un monument de l'Ancien Régime que vous avez évoqué en commençant votre exposé, c'est la question des lettres de cachet, et c'est à cet aspect-là que je voudrais, moi, m'arrêter ici. Dans l'un de ses manuscrits, Malesherbes écrit « Les droits de la magistrature me sont chers, mais ceux de l'humanité me le sont infiniment davantage. » Et là, pour avoir quand même beaucoup lu Malesherbes, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même un petit rapport à Montesquieu, dont il souligne justement cette appartenance à un esprit de corps de la magistrature, que lui respecte et qu'il servira toute sa vie. Mais pour Malesherbes, la loi, la justice ne doit pas en effet prendre le pas sur la question de l'humanité. Et il va être amené, à l'occasion des deux ministères successifs qu'il va occuper sous Louis XVI, d'être en charge de ce ministère de la justice. Il était ministre de la maison du roi et donc il devait gérer notamment la question des prisons et toute une série de problèmes quotidiens qui vont bien évidemment l'amener à s'intéresser à la question de ces fameuses lettres de cachet. Alors, je ne vais pas vous faire la suite, vous expliquer ici ce que c'est, mais j'ai repris ici la définition traditionnelle. Lettres servant à la transmission d'un ordre du roi, c'est un élément important, permettant le plus souvent l'incarcération sans jugement, l'exil ou encore l'internement de personnes jugées indésirables par le pouvoir. Cette question d'ordre du roi est fondamentale. D'ailleurs, les textes que Malesherbes consacre à la question s'intitule « Mémoire sur les ordres du roi », et la lettre de la cachet en fait partie, bien entendu. Et on se trouve un petit peu ici dans, j'ai envie de dire, le négatif de ce que nous avons discuté jusqu'ici, c'est-à-dire non pas le rôle du juge, mais son absence, puisqu'on a ici une justice qui passe sans jugement, la définition est assez claire, et donc c'est la privation de la liberté d'un individu simplement par cet ordre qui est déposé. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un élément qui n'est pas du tout absent, évidemment, de la réflexion de Montesquieu, et on sait que le manuscrit, pour ça, nous donne une vision sensiblement différente de la version publiée, le fameux livre 12, où on voit que, bah, oui, Montesquieu a perçu qu'il y avait un problème quand même avec ces lettres de cachet et des passeaux, et il partage évidemment les préoccupations de ses contemporains. Néanmoins, et bon là je ne vais pas vous répondre sans doute mieux que moi là-dessus s'il y a des questions, ce qu'il va faire c'est essentiellement montrer comment ces lettres de cachet sont apparues, comment elles ont été nécessaires, comment le roi a pu manifester ainsi sa volonté. Que finalement l'histoire a passé et que les choses ont évolué. Cet élément-là, pour Malesherbes, elle est fondamentale, car en effet, ces ordres du roi n'ont finalement plus grand-chose à voir au XVIIIe siècle avec la justice royale. Il y a un abus de ces lettres de cachet, contresignées par un ministre. Le roi n'est évidemment pas averti de l'ensemble des ordres qu'on va signifier en son nom, et c'est en cela, pour Malesherbes, qu'il y a un vrai problème. Hein. Nous avons ici une espèce de dérive de ce pouvoir royal qui est exercé de manière abusive, le roi finalement ne contresignant pas efficacement le fait qu'on va enfermer un fils de famille qui a dépensé le patrimoine à tort et à travers, ou bien qui s'est méconduit avec une jeune personne avec qui il aurait mieux fait de ne pas fréquenter. Très clair que le roi a autre chose à faire que de signer ce genre de choses. Pour Malesherbes, comme beaucoup de ses contemporains, nous avons là le symptôme d'une dérive, d'un absolutisme royal, dont cet inspecteur nous a parlé, qui est dévoyé en pouvoir despotique et arbitraire. Cette notion justement de despotisme et arbitraire est fondamentale. Alors, cette question-là, bien entendu, il n'est pas le seul à se l'être posée. Le fait même qu'au nom du roi, qui ignore tout de ce qu'on fait en son nom, on va priver un individu de sa liberté. Les textes sur lesquels je me fonde pour vous parler ici sont des textes assez tardifs dans la vie de Malesherbes. Il les rédige, je l'ai dit, à la fin de son ministère, dans les années 1780. On est quand même à la veille de la Révolution et c'est assez frappant. J'ai eu l'occasion de rééditer deux mémoires inédites de lui. On se rend compte qu'il avait vraiment un caractère visionnaire. Il avait, pour ainsi dire, prévu presque à la lettre ce qui allait se passer. Il a écrit plusieurs mémoires qui ont été remis à Louis XVI pour lui demander d'accéder à toute une série de réformes qui n'ont pas été écoutées. Ce qui fait que Malesherbes a quand même toujours eu la vocation à jouer les Cassandres en France. Mais qui finalement marque l'aboutissement d'une réflexion de longue date sur la question de la justice et de l'usage de ces lettres de cachet. Lorsqu'il était président de la Cour des Aides, il a été amené justement à prendre la défense de toute une série de particuliers qui étaient la victime de ces lettres de cachet. Alors, une d'entre elles est célèbre, c'est l'affaire Monrat, je n'ai pas l'occasion ici de m'étendre, mais je voudrais simplement vous citer ici un extrait des remontrances qu'il va écrire à ce moment-là au roi pour lui montrer que finalement l'usage des lettres de cachet tel qu'il est exercé dans la France contemporaine est une dérive dangereuse vers l'absolutisme et le despotisme. Il en résulte, sire, qu'aucun citoyen dans votre royaume n'est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à une vengeance, car personne n'est assez grand pour être à l'abri de la haine d'un ministre, ni assez petit pour n'être pas digne de celle d'un commis des fermes. Et il y a chez Walser cette volonté, j'ai envie de dire, d'être un homme de terrain. Il l'a été de facto. Pendant son ministère, il a, sous le couvert de l'anonymat, visité les prisons, rencontré les détenus, discuté avec eux sur les conditions de détention, j'y reviendrai tout à l'heure, s'est rendu compte très clairement qu'en effet, on vivait dans un pays pour lequel, justement, la question de la liberté, dont vous parliez tout à l'heure, est en danger, car les lettres de cachet se sont répandues de manière extrêmement arbitraire. Alors, au fur et à mesure qu'on va progresser dans le siècle, dans le XVIIIe siècle, le consensus va se faire de plus en plus évident pour mettre ainsi en accusation les lettres de cachet. Vous avez parlé de Voltaire, vous avez parlé, qui en a été d'ailleurs lui-même la victime, on a parlé de Beccaria. Deux exemples sont évidemment très célèbres à la veille de la Révolution. Ce sont d'abord les mémoires sur la Bastille de l'avocat Ninguet en 1783, et plus peut-être encore le texte posthume de Mirabeau, des lettres de cachet et des prisons d'État, qui s'en prend d'ailleurs nommément à Montesquieu, l'accusant de ne pas avoir stigmatisé dans l'esprit des lois l'usage des lettres de cachet, disant vous avez finalement fait une interprétation abusive de ces lettres de cachet, reprochant à Montesquieu de ne pas avoir actualisé le débat, en gros, d'être parti de l'origine des lettres de cachet, de ne pas avoir vu qu'il y avait une distorsion entre leur objectif principal et puis leur réalisation effective. Alors, comme il ne s'agit pas ici de refaire une conférence, mais simplement d'une réponse...
Juste pour dire que comme on est commencé,
oui.
Il faut bien garder du temps pour la discussion.
Mais je termine de suite. Dire simplement que, comme je vous l'ai dit, Malesherbes est un homme d'action, et donc ce qu'il veut faire, c'est proposer une solution. Alors il est bien conscient, justement, qu'on ne peut pas ainsi balayer un système qui fonctionne depuis des siècles, celui des lettres de cachet. On ne peut pas le remplacer par rien du tout. Sinon, on risque de tomber dans l'anarchie, et là je rejoins encore votre propos. Donc comment peut-on finalement y suppléer ? Bien, il proposera une solution transitoire, qui est d'établir, je passe ici sur cet extrait que je donnerai finalement si vous le souhaitez, d'établir une commission. Une commission qui serait en charge justement de ces affaires qui ne ressortent pas de la question de la justice criminelle. Alors cette commission ne serait donc pas confiée à un seul, comme c'est le cas dans l'usage des lettres de cachet, mais bien présidée par un ministre, cinq membres de la Cour des aides, et puis le lieutenant de police qui devrait en faire l'application. Alors, je vais donc rapidement passer pour le reste et je fournirai finalement à ceux qui le souhaitent les éléments sur lesquels je n'ai donc pas le temps de m'arrêter ici. Simplement pour montrer qu'il est tout à fait conscient qu'il ne s'agit là que d'une situation transitoire qui va permettre finalement à un État qui est en train de basculer, ne le sait pas encore, mais de l'ancien régime dans un autre type de fonctionnement, de remplacer quelque chose qui est devenu caduque par autre chose. Alors, c'est l'élaboration pour lui d'un tribunal des familles, qui est à terme ce qu'il souhaite élaborer. Un tribunal des familles qui n'aura pas eu lieu, mais nous avons ici le témoignage de Lacretel, qui a été l'un des collaborateurs les plus proches de Malesherbes, qui nous dit « Pendant son ministère, Malesherbes ne pouvant faire renoncer à cette portion de pouvoir arbitraire que le gouvernement exerçait dans les familles par ce qu'on appelait les lettres de cachet, avait du moins enlevé l'exercice de ce pouvoir au bureau des ministres et à ceux des intendants pour le concentrer dans une commission de magistrats, s'était laissé d'une surveillance protectrice dans les familles, remarquer que le ministre s'était borné à cette petite transformation dans l'abus. » Et Lacretel de conclure que, bien entendu, dès que on a vu ça se mettre en place, on a eu peur, on a crié à la révolution, et bien entendu, dès que Malesherbes a quitté le ministère, on a aussitôt supprimé cette réforme. Toutes les précautions que j'avais prises, dit Malesherbes, pour empêcher l'abus des lettres de cachet ont été abandonnées dans l'instant de ma retraite et mises au nom de ce que l'on nommait alors les rêveries de l'abbé de Saint-Pierre. Fort heureusement, ben, la France a évolué et on les a quand même abandonnées. Donc je ramasse ici ce que j'avais à vous dire et je vous remercie pour votre attention.